Elle était une fois une femme dont la vie l'avait longtemps écorchée. Une femme qui tentait d'avancer et de se construire dans un monde qui tombait en ruine. Un jour, alors qu'elle sombrait peu à peu dans le désespoir, elle rencontra d'autres femmes qui lui tendirent la main et devinrent ses sœurs, soignant ainsi son cœur blessé. Bienvenue sur Radio G dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vous nous suivez sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr où vous pouvez d'ailleurs nous écrire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines. Elle entre sur le plateau comme dans un ring de boxe, prête à en découdre avec le patriarcat, c'est Emeline. Bonjour Emeline, comment ça va?
Ça va super, et ça, toi?
En pleine forme, trop contente de vous voir ici réunis pour une nouvelle émission. J'attendais ce moment depuis très longtemps, très 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 longtemps, avant même le début de la saison. Son absence pèse un peu plus chaque jour sur mon cœur, mais je gardais espoir de l'avoir un jour sur notre plateau. C'est ma copine, mon acolyte, l'un de mes plus grands soutiens, c'est Léonie. Comment ça va?
Coucou, bah ça va très bien, quelle introduction.
Eh, t'as vu, je te lance des fleurs et tout là, en bombe là comme ça, en bonne introduction.
Je suis honorée, va falloir que je le mérite.
Mais tu le mérites. Je suis trop trop contente de t'avoir enfin avec nous. Comment ça va en Italie? Parce que je le répète, tu es actuellement en Erasmus en Italie et tu nous fais tes chroniques depuis l'Italie, c'est incroyable.
Mais ça va très très bien, ça va très très bien en Italie. Je vous avoue que je suis trop contente d'être là en plateau pour l'émission. Ça me frustrait un peu de vous voir discuter entre vous, mais là je suis trop contente d'être là.
C'est trop trop bien, je suis trop contente vraiment et je vais le dire jusqu'à la fin de cette émission et plus encore. Au sommaire de cette émission, on vous parle d'une artiste qu'on n'a plus besoin de présenter, on parle de Rosalia. Connaissez-vous Harriet Tubman, cette combattante qui a survécu à l'esclavage et qui s'est battue toute sa vie pour ses Adelphes? Emeline nous raconte son histoire dans quelques instants, alors restez avec nous. On vous présente aussi Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy dans le nouveau pan littéraire de Léonie, effectué pour la première fois en direct sur notre plateau et je suis trop trop contente! Dans cette émission, on s'engage et on milite, mais le militantisme peut prendre différentes formes, notamment celle de la manifestation. Mais comment faire pour faire entendre ses revendications tout en restant en sécurité? On en discute tout à l'heure. Comme d'habitude, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Et aujourd'hui, on reçoit une militante que j'admire beaucoup et qui s'engage chaque jour pour ses convictions, c'est Sarah. Bonjour Sarah, comment tu vas?
Hello, et bah très bien et vous? Merci beaucoup de me recevoir, je suis trop heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et puis voilà, en pleine forme tout simplement.
Et bah trop trop bien et on est trop trop contente de t'avoir avec nous sur le plateau. Nous découvrirons ton parcours et tes engagements dans un quart d'heure environ, alors restez avec nous. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM pendant une heure où on vous accompagne pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. Mais avant de commencer tout ça, il faut que je vous raconte la dinguerie qui nous est arrivée cette semaine à Léonie et à moi. Mais quand je dis dinguerie, c'est une vraie dinguerie.
Vous êtes pas prête.
Alors, petit contexte, deux copines qui vont à Paris kiffer pour voir des copines, mais surtout pour voir le concert d'un artiste canadien pas hyper connu, mais qu'elles adorent toutes les deux. Et en première partie, Hunter Daily, une artiste toute mimi qu'elles découvrent complètement. Le concert passe, c'était trop le feu, on a dansé, chanté, crié, bref, on a kiffé. Et à la fin, on croise qui? Hunter Daily, l'artiste du début. Trop cute, trop mimi, on discute avec elle, petite photo, petit autographe, on rentre à de ouf notre moment. Et puis d'un coup, Léonie décide de lui parler de notre émission. Voilà, roue libre, moi j'étais, il n'y avait plus rien dans ma tête. Et là, vous êtes vraiment pas prête. Une fille dans le public, à côté, nous dit « Ah ouais, mais je connais. Ma prof nous en a parlé. » Dinguerie. Mais vraiment dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est ouf. Et je lui dis mais trop choc-barre, que c'est pas possible. Est-ce qu'elle est danger, genre? Il y a que ça qui peut faire qu'elle connaisse, tu vois. Et encore, des gens qui connaissent à Angers, c'est fou. Et là, elle nous dit que non, elle est pas du tout danger. Elle vient de Reims. Donc là, on est en train de nous dire qu'il y a une prof à Reims qui nous connaît, qui nous écoute et qui aime suffisamment ce qu'on fait pour nous recommander à ses élèves. C'est fou ce qui se passe, c'est complètement fou. Donc madame, si vous nous écoutez, merci beaucoup déjà, c'est exceptionnel. C'est incroyable de savoir que notre petite émission toute petite qui a 3 mois à peine, bah elle est écoutée en dehors d'Angers, déjà c'est fou. Et à Reims, c'est encore plus fou. Donc merci vraiment de prendre le temps de nous écouter blablater pendant 2 heures chaque mois. Merci d'en parler autour de vous et à vos élèves, c'est complètement fou là encore. Donc madame la prof de Reims, s'il vous plaît, envoyez-nous un message sur notre Instagram euf-radio-g pour qu'on puisse discuter un petit peu avec vous, ce serait un immense plaisir. Complètement dingue. Emeline, t'en reviens pas là.
Mais vraiment, je suis choquée, mais je suis ravie.
Mais oh, on est d'accord, c'est trop bien.
Vraiment.
Incroyable. Sur un tout autre sujet maintenant, je voulais vous dire que vous êtes vraiment des sales connes.
Ah bah
mais
oui.
Vraiment.
Merci beaucoup.
Je sais, avec grand plaisir Léonie, je t'aime. Alors dit comme ça, vous avez peut-être l'impression que je vous insulte gratuitement, mais ce qualificatif ne vient pas de moi, mais de notre première dame, Madame Brigitte Macron. Vous êtes peut-être passé à côté, mais récemment, Brigitte Macron s'est rendue au spectacle de Harry Habitant, accusée, je le rappelle, de viol, et a qualifié les militantes féministes qui défendent les victimes de sales connes. Voilà, je vous cite, quand même la phrase exacte. Je cite, « S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors ». Voilà, donc le mépris de Madame Macron a pour nous. Voilà, nous, humains décents, qui défendons les victimes et non les agresseurs. Alors, si croire les victimes et se battre pour elles, c'est être une sale conne, bah laissez-moi vous dire que je le suis et que j'en suis fière, en fait. Voilà. Est-ce que autour du plateau, vous aviez vu passer la vidéo et qu'est-ce que vous pensez de la polémique, Emeline?
Oui, alors j'ai vu passer plusieurs fois la vidéo et vraiment à chaque fois je me dis mais comment est-ce qu'elle peut dire ça? Genre vous êtes une femme quand même aussi, donc vous devez quand même comprendre les combats. C'est un peu triste.
Ouais, on est d'accord. Mmh. Sarah, est-ce que tu avais vu passer la vidéo, la polémique et tout ça?
Ouais, carrément, j'ai vu ça aussi dans mon feed un peu partout et est-ce qu'on s'y attendait finalement un peu? Mais moi surtout ce que je vois c'est que ça a quand même relancé un mouvement de sororité sur les réseaux sociaux et en fait je me dis si leurs grosses dingueries nous permettent à nous de récupérer l'espace public et pour faire de la politique, bah trop cool et tant pis les bourgeois cons en fait. Voilà,
j'adore. Léonie a un truc à rajouter?
Ah mais je suis trop d'accord avec ce que Sarah elle a dit, vraiment la sororité que ça a créé autour de ce sale conne et du coup de devenir fière en fait de ouais je suis une sale conne et je vais continuer de militer pour mes valeurs et pour ne pas soutenir des personnes accusées d'agression sexuelle et de viol. Je trouve que c'est trop beau et de pouvoir unir toutes ces femmes derrière ce slogan qui est quand même super accrocheur. Donc moi je trouve ça top.
Carrément. Merci beaucoup pour cet échange. Nous sommes donc des sales connes et nous en sommes fiers, n'en déplaise à Madame Macron. Partons à présent à la découverte de nouvelles pépites féministes. Découvrons ce que nous a déniché Anna. Bonjour Anna.
Au programme du Point Culture aujourd'hui, on parle d'un mix entre peinture et musique et d'une chanteuse pop électro reconnue comme Plante Industrie. Alors pourtant qu'elle sort du lot selon moi. On en parle tout de suite sur Elle était une fois. Avez-vous déjà remarqué, et j'ai l'impression en disant ça que c'est le début d'un médiocre podcast, l'univers artistique de Rosalia? Si vous vous plongez bien dedans et que votre connaissance artistique n'est pas limitée à Picasso, bien que j'ai sorti là le pire exemple, alors vous avez sûrement dû vous rendre compte que beaucoup de ses clips et covers d'albums étaient en réalité des clins d'œil à des artistes plus ou moins connus. Par exemple, sur sa pochette d'album Motomami, où Rosalia réside nue avec seul un casque de moto pour l'habiller. Est-ce que sa posture ne vous intriguerait pas? Cachant ses parties les plus intimes avec ses mains, Rosalia fait ici référence à la naissance de Vénus, peinture de Sandro Botticelli, où la déesse Vénus, émerge de la mer sur un coquillage dans la même posture. Cette position, où la femme se couvre comme symbole d'intimité, est beaucoup réutilisée dans les clips de Rosalia quand on y repense, notamment dans Bergain, en référence à la Madeleine pénitente de Titienne, ou encore dans Presso, où des oranges viennent cacher la poitrine de la chanteuse. Petit clin d'œil à Julio Romero de Torres avec son œuvre Naranjas Limones. Mais alors pourquoi cette position récurrente refait beaucoup surface dans la direction artistique de Rosalia? Évidemment, cela ne reflète avant tout que d'un point de vue personnel, mais je trouvais bon de vous le partager afin de voir ce que vous en pensiez. À travers ces postures, je trouve que l'on retrouve un geste universel de vulnérabilité féminine. En couvrant son corps avec ses mains ou avec des objets symboliques, Rosalia performatise un geste archétypal, celui de la femme qui se protège du regard. Chez elle, ce geste n'est pas simplement pudique, il devient une affirmation de contrôle. Elle choisit quand et comment elle se dévoile. C'est une vulnérabilité mise en scène, un espace d'intimité repris en main. Je vous ai pas ressorti tous les exemples qui ont pu être trouvés, mais la direction artistique de Rosalia en vaut vraiment le détour. D'autant plus que celle-ci reste un débat constant, certains pensant que la reprise d'œuvres leur enlève leur âme, d'autres affirmant redonner vie à des tableaux sous une forme moderne. À vous d'en décider maintenant. De son vrai nom, Michaela Elena Duplay, Miki est une chanteuse franco-coréenne et vous avez sûrement entendu parler d'elle depuis l'année dernière. Perso, je l'ai connue sous son ancien pseudo Kimi Duplizel avec son morceau Misunderstood que j'adorais mais qui n'est malheureusement plus dispo sur les plateformes. Et quand j'ai redécouvert cette artiste, ça m'a fait un choc de voir à quel point elle, qui était encore inconnue à l'époque, avait explosé avec son célèbre tube Échec et Mat. Et ce qui m'a d'autant plus surprise, c'est la façon dont l'artiste a été prise dans une polémique soudaine dès son ascension. Il faut savoir que Miki est très bien entourée dans l'industrie de la musique, avec des artistes plus ou moins connus, ce qui peut jouer en faveur de son succès. Mais pourtant, la chanteuse ne plaît pas forcément dans le sens où c'est une chanteuse indé qui fait part d'une grande reconnaissance à l'heure d'aujourd'hui. Tout s'explique à travers les sponsors, les placements de produits et les nombreux clips sans budget sur un seul et même son qui la font propulser. On reproche aussi à Miki de faire un RP adolescente. Par ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait Orelsan jusqu'à ses 40 ans et pour autant, lui, on lui salue sa perfo. La question pourquoi ne se pose même plus, étant donné qu'on a la réponse, c'est un homme. No hate envers Orelsan, évidemment, j'adore son parcours musical, mais revient ici le problème d'inégalité des genres. Alors, on en pense quoi ? Miki, c'est quand même quelqu'un qui développe son profil artistique depuis plusieurs années. Elle n'est pas partie de rien, car depuis petite, elle étudie et joue de la musique, ce qui fait qu'elle baigne depuis sa tendre enfance dans un milieu musical bien complet. Il est vrai qu'elle a été récupérée par son label actuel. Son style musical a bien changé, ce qui peut faire penser qu'elle compose seulement pour les thunes, d'où son étiquette d'industrie plante. Pourtant, il y a ce truc chez elle que je trouve vraiment cool, où elle casse les codes en étalant sous un genre nouveau des punchlines sur ses traumas, ses expériences amoureuses ou encore sa vie familiale. Elle a ce timbre un peu endormi et pourtant que je trouve révolutionnaire, changeant. Qu'elle soit payée des milliers pour produire ou non, sa musique reste unique et sort du lot. La chanteuse a d'ailleurs sorti il y a environ un mois un nouvel album, et bon, ça serait mentir si je vous disais que je l'ai écouté et que je vous le recommande, mais après cette petite description que j'ai pu vous faire sur son identité musicale, écouter et analyser son dernier projet pourrait vous permettre de vous faire un avis sur le sujet, et si jusqu'à présent son nom vous était inconnu, vous faire une idée de qui est Miki. Le Point Culture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles actus culturelles. Ça m'a fait vachement plaisir de vous partager tout ça. J'espère que ça aura pu attiser votre curiosité. Vous êtes sur Radio G, 101.5 FM ou sur radio-g.fr.
Merci beaucoup Anna pour cette nouvelle chronique. C'était comme d'habitude super intéressant et j'ai déjà hâte de découvrir les prochaines pépites que tu nous présenteras. Vous vous souvenez de Harriet Tubman dont je vous parlais tout à l'heure, une femme à l'histoire bouleversante et très forte? Eh bien, c'est le portrait de la semaine que tu nous présentes, Emeline.
Elle était une fois, surnommée la Moïse Noire, échappée des chaînes de l'esclavage et combattante contre les inégalités et les injustices, je vous raconte l'histoire d'Harriet Tubman. Harriet naît dans les alentours de 1820 dans une plantation du Maryland. Cinquième d'une fratrie de 9 enfants, elle grandit dans un monde où l'enfance, pour certains, n'existe pas. À 6 ans déjà, elle est envoyée chez une maîtresse de maison, Miss Suzanne, qui la maltraite quotidiennement. Mais dans cette petite fille naît déjà une force de résistance. À l'adolescence, un événement marque sa vie à jamais. Harriet assiste à une potentielle tentative de fuite. Son maître ordonne de l'arrêter, mais Harriet refuse. Furieux, il lui lance un poids métallique à la tête et elle reste 2 jours sans recevoir aucun soin, traitée comme une moins que rien. Elle survit, mais est rapidement sujette à des crises d'épilepsie, des hallucinations et des rêves pour elle à connotation divine. Adulte, elle épouse John Tubman, un homme libre. Mais malheureusement, sa santé, fragile, pousse son maître à vouloir la vendre. Personne ne l'achète. Harriet prie alors pour que son maître, Brodess, disparaisse et quelques mois plus tard, il meurt. L'incertitude de son sort, trop intense, pousse Harriet à prendre en main son destin. En 1849, elle tente une première fuite avec ses frères, mais eux, pris de peur, rebroussent chemin, Harriet aussi. Pourtant, elle ne renonce pas. Quelques semaines plus tard, Seule, elle s'élance à nouveau. Guidée par le Underground Railroad, ce réseau clandestin de routes et de refuges tenu par des abolitionnistes et anciens esclaves, elle atteint la Pennsylvanie, l'un des premiers États à avoir aboli l'esclavage. Ne se contentant pas de sauver sa propre vie, elle retourne encore et encore dans le Sud pour libérer d'autres esclaves, dont plusieurs membres de sa famille. Jamais elle ne perd un seul fugitif en route. Pendant la guerre de sécession, elle devient infirmière, cuisinière, elle participe même à une opération militaire. Et Harriet Tubman n'était pas seulement une survivante, elle était une combattante, une stratège. Jusqu'à sa mort en 1913, elle incarne l'idée que la liberté n'est jamais donnée mais arrachée, elle qui a tout fait pour la récupérer. Alors voilà, je voulais vous parler de cette femme incroyable, le temps de quelques minutes, en espérant que son histoire ne soit jamais oubliée.
Merci beaucoup Emmeline pour ce nouveau portrait. Je connaissais pas du tout cette femme, donc c'est vraiment très très cool de découvrir son histoire qui est hyper forte. Donc merci à toi Emmeline de nous faire découvrir à chaque émission des femmes que l'histoire a oubliées. Nous allons à présent marquer une première pause musicale qui nous est présentée par toi Léonie. Oui, alors Léonie, elle est en attente. On va la connecter tout de suite sur en duplex. Bonjour Léonie.
Bonjour Astrid. Je vous propose aujourd'hui d'écouter Girlfriend de Hunter Daly, une artiste trop chouette que j'ai découvert récemment au concert dont Astrid vous a parlé. La musique qu'on va entendre, elle a été recommandée par l'artiste elle-même quand je lui ai posé la question après le concert et je ne peux que être d'accord avec son choix. C'est une très belle chanson qui parle du crush de la chanteuse sur une fille de son entourage, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. On se retrouve dans un instant sur Radio G, 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute!
Cut your hair yourself.
avec nous sur le 101.5 FM dans Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines, Emeline, ça va toujours?
Ça va toujours.
Toujours avec Léonie, comment c'est d'être enfin avec nous sur le plateau?
C'est trop bien, je kiffe.
Elle nous fait l'honneur d'être sur notre plateau, c'est Sarah, militante engagée pour les luttes féministes et intersectionnelles. Sarah, ça va toujours?
Nickel, vraiment, je profite à fond de cette émission et c'est trop cool d'être là.
Ah, c'est trop trop bien. C'est le moment confession, parce que comme je l'ai dit, ici, comme je le dis toujours, ici on se dit tout et on se connaît déjà toutes les deux. On a on était dans la même promo à la fac et pour autant, fun fact, on s'est jamais vraiment parlé.
C'est vrai.
On a passé 3 ans à se côtoyer tous les jours. C'est un peu improbable d'ailleurs quand on se dit qu'on a partagé notre quotidien pendant 3 ans sans se parler, mais malgré tout j'ai un peu suivi de loin tes engagements, notamment via les réseaux sociaux, et c'est pour cette raison que je voulais t'inviter. Donc bienvenue dans notre groupe de copines.
Merci, vraiment, très heureuse d'être là.
Eh bien, plaisir partagé. Elle a choisi de s'engager chaque jour pour défendre ses convictions, c'est notre invitée de la semaine. Bonjour Sarah. Alors comme j'ai fait que de le répéter depuis le début de l'émission, du coup, hein, tu es militante. Mais qu'est-ce que j'entends par là exactement et comment ça prend forme dans ta vie? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. On va commencer par une petite contextualisation pour apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie actuellement? Parce que comme je viens de le dire, on était à la fac ensemble, mais que fais-tu maintenant que notre licence est terminée?
Alors après la licence, du coup, j'ai rejoint un master qui va me permettre de devenir prof d'ici quelques mois, normalement. Enfin, je le suis déjà du coup en alternance, donc je suis future prof de lettres, certifiée normalement dans quelques mois.
Voilà. Incroyable. Ah, ça claque ça.
Ouais, ça fait son effet.
Et ça va, ça se passe bien?
Ça va, c'est une année un peu rude avec le concours. Enfin, je suis un peu sur tous les plans, mais c'est hyper enrichissant aussi et je me sens vraiment à ma place, donc je sais que j'ai rejoint la bonne voie, quoi.
Trop bien, c'est important de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et donc oui, tu l'as dit en fait, t'as pré-shot mes questions, c'est ok, tu prépares le concours, du coup, concours de quoi exactement?
Donc c'est le CAPES, on appelle ça, et moi du coup je suis en lettres modernes. Donc, okay. C'est-à-dire que je vais pas enseigner de latin ni de grec ancien, etc. Juste partager la littérature, des textes, la grammaire, la langue, tout ça.
Ok, et là, toutes les personnes qui détestent le français sont en PLS. C'est ok, en vrai, le français, c'est très bien. On a eu le débat dans J'ai la ref vendredi dernier, donc écoutez. Petite pub. Et à côté de tout cela, si je peux le dire de cette manière, tu milites à ton échelle pour différentes luttes. Est-ce que tu te revendiques militante ou est-ce que c'est pas un mot que tu utilises particulièrement?
Militante dans le sens où j'ai à cœur dans ma vie de faire valoir mes convictions, de les partager, etc. Après, je sais qu'il y a d'autres gens qui consacrent au militantisme une part encore plus importante de leur vie, qui en font même, leur métier à travers la politique. Enfin, en fait, il y a plein de moyens de militer, et c'est aussi ça que je veux faire valoir. Et je pense que c'est un mot où on doit se sentir légitime, un peu à notre façon, peu importe le moyen qu'on choisit d'utiliser pour s'accaparer cet espace et avoir une certaine parole. Donc voilà.
J'approuve tout à fait ces paroles. On en avait d'ailleurs discuté dans une précédente émission quand on parlait de pureté militante et de légitimité, qui était très très difficile à être en accord avec soi-même. Donc je rejoins tes paroles et c'est assez plaisir d'entendre ça. Donc nous sommes dans Elle était une fois, une émission qui vise à mettre en lumière les femmes dans la lumière qu'elles méritent. Comment c'est d'être une femme dans le milieu du militantisme? Est-ce que t'as l'impression que cela te confère une légitimité en plus? Ou est-ce que c'est un poids entre guillemets et ça s'accompagne de difficultés?
Je pense que tout dépend de qui on s'entoure pour militer. Okay. Je pense que les femmes qui militent, que ce soit dans leur vie perso ou même dans l'espace public, elles sont d'autant plus scrutées, regardées. Enfin, voilà, leur parole, elle est clairement passée au peigne fin et elles ont limite pas le droit à l'erreur. Plus en tout cas que des hommes qui peuvent militer, j'ai l'impression. On se doit d'être encore plus à cheval sur n'importe quel sujet. Mais j'ai envie de dire, on se trouve aussi un cercle et je pense que je me sens quand même assez équilibrée avec mes relations sociales extérieures et liées au militantisme pour quand même avoir des points d'appui et me dire que c'est ok d'essayer et que tant qu'on a à cœur de toujours s'informer, s'éduquer et de partager, je pense que c'est déjà un très bon point. Donc ça va, c'est un mix des deux, mais je pense qu'il faut juste trouver le juste milieu et c'est pas toujours facile quand même à identifier et à construire, mais c'est en chemin perpétuel, quoi.
C'est super intéressant ce que tu dis, je bois tes paroles. Comment tu es devenue militante? Est-ce que tu as toujours eu une sensibilité liée aux différentes luttes, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps, te sensibilisant, grandissant, découvrant plusieurs choses? Comment ça t'est venu un petit peu?
Alors déjà, je pense que ma mère a hautement contribué à ça. Oh. Je veux dire, elle était militante elle-même, et je pense toute sa vie, ça a été une politisation continuelle.
Ouais.
En plus, du coup, j'ai grandi qu'avec une maman aussi, donc je pense que j'ai eu aussi un modèle familial qui m'a permis de voir ce que c'était qu'être une femme dans la société et tout ce qui en découlait. Enfin, pas tout ce qui en découlait, parce qu'évidemment, il y a plein d'expériences de femmes différentes. Mais en tout cas, ça m'a aidé à avoir un premier modèle et un premier pied, en fait, mis dans le militantisme. Et après, j'ai poursuivi ça aussi avec, quand j'ai découvert mon identité romantique et que j'étais queer. Et en fait, ça s'est alimenté au fil de mes réalisations, de ma curiosité. Et juste, c'est là où j'ai senti que ma vie prenait du sens quand j'en faisais. Donc ça continue, et encore aujourd'hui, enfin, tous les moyens que j'ai, que ce soit le journalisme indépendant, mes copines, ma mère, tout le monde, en fait, les assos, enfin, pour moi, tout participe à nous éduquer, et j'essaie de me saisir de tous ces moyens-là.
C'est trop trop intéressant, et je trouve ça trop cool d'avoir une représentation du coup par ta mère depuis toujours, en fait, depuis ta plus tendre enfance. Et je trouve que c'est super intéressant, et ça doit être une vraie force au quotidien aussi, parce que c'est pas toujours facile d'être militant, encore moins quand la famille ne suit pas. Et donc d'avoir un soutien de ce côté-là, ça doit être très important aussi pour toi, j'imagine.
Oui, complètement, vraiment.
Donc tu fais actuellement des études pour devenir prof, comme tu nous as dit. Est-ce que tes engagements vont avoir une place dans ta manière d'enseigner, si tu as déjà un peu réfléchi à la question? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais intégrer?
Moi, c'est certain, je pense que les cours qu'on construit, les textes qu'on choisit, tout a du sens et révèle un peu de nous-mêmes. Donc oui, bien sûr, j'ai à cœur de montrer à mes élèves que au sein de notre société, il y a plein d'oppressions, que le système priorise certaines existences plutôt que d'autres et complique la vie de certains individus en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur ethnie. Enfin, il y a tellement de critères et pour lesquels on est observé, discriminé, et donc j'ai à cœur de mettre en avant ça, de les construire en tant que citoyen et citoyenne, et de participer à vraiment éveiller leur conscience. Je pense que c'est ça, en fait, aussi. Et je pense que j'ai beaucoup aussi à apprendre d'eux, en fait, et d'elles, et d'elle, dans mes élèves. Enfin, ils vivent dans ce monde et ils sont déjà bien conscients et conscientes de tout ce qui se joue. Et donc, en fait, même moi, il y a des choses et elles me permettent de réaliser vraiment, dans ma propre pratique ou dans le système scolaire, les injonctions qui peuvent aussi reparaître d'une certaine façon. Donc, non, c'est génial. Enfin, c'est vraiment un mouvement réciproque, quoi, et mutuel. Donc, ça me fait du bien.
Et je crois pas que tu l'aies dit, tu aimerais être avec des élèves de quel âge à peu près?
Alors moi, du coup, je me forme pour être dans le secondaire, donc ça veut dire collège, lycée.
Ok.
Et vu que je suis dans le public, c'est pas forcément moi qui ai la main sur ça. Mais c'est aussi cool, justement, parce que ça me permet de pas choisir, et enfin d'être face à des jeunes qui sont issus de plein de milieux différents et qui ont des histoires, des expériences différentes, des rapports à l'école différents, et enfin tout ça, c'est hyper riche et instructif, quoi.
Et puis du coup, c'est avec des élèves parfois très jeunes, notamment au collège, donc c'est hyper important, et c'est là que beaucoup se jouent aussi sur ça. Donc trop trop intéressant. Les filles autour du plateau, si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas, comme d'habitude, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Donc comment se traduit ton engagement à peu près? Est-ce qu'il y a des actions que tu réalises au quotidien ou ponctuellement pour ajouter un petit peu ta pierre dans le combat pour les différentes luttes, ou est-ce que, je sais pas, comment ça se traduit un petit peu?
Alors déjà, je pense que mon militantisme, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Par jour, ça doit saouler d'ailleurs certaines personnes, mais je sais pas, je mets environ 5 à 10 stories.
Ouais.
En gros, j'essaie de relayer la parole de personnes concernées et ou qui essaient d'avoir un discours sur le monde dans lequel on vit, et toutes les choses qui sont pas ok, et les choses aussi qui sont ok, parce que des fois il y a des victoires militantes et faut aussi le dire, et faut aussi mettre ça en valeur. Mais du coup, de cette façon-là, les manifs, donc c'est un autre moyen de militer, je trouve. C'est aussi s'accaparer l'espace de la rue et se le réapproprier.
Ouais.
Et surtout, en tant que meuf, ça a du sens quand on peut avoir souvent hyper peur, qu'on est pas mal scruté, tout ça, hué, enfin, c'est cool. La manif, ça peut être aussi justement aller dans des assos, où du coup, là, je le fais moins, mais à un moment, j'ai pu faire partie de certaines assos et aller en milieu scolaire, ou même mener des actions pour mettre en avant ces luttes et ces causes. Et je dirais que, enfin, de plein de façons différentes, j'ai tendance à dire que le militantisme, ça va de la discussion qu'on a avec quelqu'un de sa famille, on essaie de lui faire ouvrir les yeux, jusqu'à la révolution tous ensemble, le rêve ultime. Mais on espère demain.
C'est trop intéressant, tu fais plein de trucs. Je trouve ça hyper admirable. Donc c'est vraiment trop trop bien. Et du coup, tu parlais de différentes associations sur Angers ou ailleurs?
Alors ouais, j'ai pu notamment être en relation avec Quasar par exemple.
Ok, ouais.
Donc plutôt sur les causes LGBTI et les violences systémiques. Voilà, enfin je sais que Act Up, j'admire beaucoup aussi leurs actions, etc. Enfin, par exemple, dans le cadre du lycée, en fait, j'étais à la MDL, tout ça, et donc on a pu aussi convier des assos. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Act Up Paris, que j'ai beaucoup admiré. Enfin, plein d'assos, juste trop chouette. Nous toutes, évidemment, et les collages féministes dans la rue aussi, je trouve ça cool. Enfin, tous les moyens pour moi sont importants et chaque moyen qui est choisi et utilisé a une symbolique, une signification et apporte quelque chose à la lutte, quoi.
C'est trop trop intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des causes qui te tiennent à cœur un peu plus concrètement? Qu'est-ce que tu défends toi au quotidien?
Alors bah du coup évidemment féministe, voilà. Et par féministe j'entends l'inclusivité avec les TDS, avec les femmes trans. Enfin évidemment on n'est pas là pour exclure et faire des conséquences. Je trouve ça important de le redire parce que malheureusement dans certains courants féminisme, il peut y avoir cette exclusion là. Donc l'antiracisme aussi évidemment au cœur de mes préoccupations. Enfin je trouve ça fou encore qu'on ait organisé le monde selon des frontières et qu'on fasse croire que l'humanité c'est appartenir à un pays. Enfin chaque pays a son histoire mais en fait on habite tous un même monde et le but c'est quand même qu'on partage tous nos expériences et qu'on s'enrichisse de nos existences, de nos histoires, de tout ça. Donc du coup les luttes queer aussi évidemment, dont enfin je me reconnais appartenir à cette communauté et pour moi, toutes les luttes se regroupent et se rejoignent, d'où le fait que j'ai pas envie de choisir une cause plutôt que d'autres. Et quand je me présente, j'aime dire que c'est tout ça mélangé. Donc ça va aussi dans l'antifascisme, évidemment, et l'anticapitalisme. Et pour moi, en fait, toutes ces causes doivent se joindre. Et c'est en utilisant et en créant un espace collectif nouveau qu'on est plus à même de gagner qu'en restant seul avec chacun nos histoires et nos oppressions.
Je suis complètement d'accord et je pense qu'il y a un consensus autour de la table. Je reviens d'ailleurs vers vous les filles. Est-ce que vous avez une question pour notre invitée ? Léonie, tu as l'air d'avoir une question.
Oui, moi j'ai une question. Je me demandais si, parce que du coup tu veux devenir prof, et si tu avais eu...
Parle bien devant le micro, s'il te plaît.
Pardon, oui. Si tu avais eu dans ton éducation des exemples de profs qui avaient pu allier justement des valeurs, des convictions féministes ou autres, qui ont pu t'inspirer et te montrer la voie que c'était possible, ou si c'est quelque chose que tu souhaites mettre en place toi-même.
Alors ouais, en tant qu'élève, je me souviens que j'ai pu avoir des profs en lettres pas mal, en histoire aussi, c'était surtout des profs femmes d'ailleurs en fait qui initiaient des moments de débat, d'échange, je sais pas, il y a la matière de l'UMC, et pour moi-même il y a plein de textes littéraires en fait qui abordent des réalités historiques, des discriminations, et pour moi c'est des vrais moments où on peut utiliser ça en fait. Donc ouais, je pense que j'ai eu des modèles évidemment. Après il y en a toujours pas assez je pense dans le monde de l'éducation et on a encore besoin justement de réaffirmer que ce travail, il est nécessaire à mener auprès des élèves, d'éducation, de sensibilisation, et que c'est que comme ça qu'on fait société, donc voilà.
Ok, merci beaucoup, et je vais poursuivre un petit peu là-dessus, parce que défendre une cause, c'est bien, mais le faire correctement et avec les bons éléments, c'est mieux. Donc par quel biais ou avec quelles ressources concrètement tu t'es éduquée sur tout ça, notamment si par exemple il y a eu des créatrices sur les réseaux sociaux, ou des auteurs, des autrices, des militantes qui t'inspirent au quotidien et par lesquelles tu as pu te sensibiliser et t'éduquer sur tous ces sujets, si tu peux nous donner des exemples, des noms pour aider nos auditeurs à grandir tous ensemble.
Alors je vais faire avec ce dont je me souviens parce que je panique, c'est là que je me dis que je vais pas en donner à assez de monde. Mais je sais pas, donc déjà il y a des chaînes YouTube genre Manon Bril, une historienne qui permet de retraiter certains sujets historiques qui ont été assez orientés, notamment quand c'était des hommes qui menaient des recherches. Charlie Danger, un peu dans la même veine, qui sont quand même assez incroyables et qui apportent carrément quelque chose. Salomé Sacquet, voilà, notre star, elle est géniale et d'ailleurs tout l'univers de Blast en fait que je recommande, qui est vraiment un journalisme indépendant. Moi je trouve que en fait les réseaux sociaux et YouTube c'est des super moyens parce que sur les chaînes TV mainstream etc, on se rend compte que c'est pas du tout des représentations qui sont fidèles et viables de nos luttes, et donc passer par ces ressources et ces moyens là c'est génial. Donc il y a toutes ces personnes là. Mon Dieu, j'ai tellement pas assez de noms qui me viennent.
Mais ok, il y a pas de souci. Mais déjà, tu en as donné plusieurs, et c'est super intéressant parce que c'est pas forcément des gens que je connaissais déjà personnellement. Donc, je pense que les auditeuristes qui nous écoutent, ça fera des ressources. Et puis après, de fil en aiguille, on trouvera d'autres personnes. Donc, c'est super, super intéressant, super important. Et c'est aussi pour ça qu'on est là pour partager plein de choses. On en parlait dans une émission précédente de la pureté militante et de la difficulté parfois à se sentir légitime dans son engagement. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et que tu as déjà ressenti ou pas vraiment ?
Ouais, bien sûr, je pense qu'il y a des fois de la culpabilité quand on loupe une manif, okay. ou quand des fois on a juste personne avec qui y aller, par exemple, mm-hmm. ça peut influencer sur notre envie d'y aller ou pas. Parfois on peut se dire que on se sent aussi méga impuissant et on peut avoir des grosses phases de down en termes de santé mentale, ou juste là on n'est plus forcément dans la publication, le relais, et où juste j'avoue on subit un peu toute l'actualité et on est juste miné et on se dit comment je vais repartir. Et en fait c'est souvent les autres qui nous permettent après de renaître un peu de tout ça et de sortir de cette phase où on n'a plus trop envie de rien faire. Donc ouais, je dirais la santé mentale, ça a quand même pas mal de conséquences là-dessus, et la culpabilité des fois, le sentiment de pas en faire assez et de pas avoir une place où on est suffisamment en mesure de faire, mais faut combattre un peu ces démons intérieurs, on va dire.
On avait parlé dans l'émission avec La Fémuse et Marie Plotty, donc Lucille de La Fémuse et Marie Plotty qui était là sur notre plateau, et on avait dit qu'il fallait être indulgente envers soi-même, que c'était important parce qu'on faisait de son mieux et c'est ça le plus important. Merci beaucoup Sarah pour cet échange, c'était trop trop intéressant et je suis vraiment trop contente d'avoir pu te recevoir sur notre plateau, parce que comme je le disais au début de l'émission et comme je te l'avais dit hors antenne, tu as participé à mon éducation et à ma sensibilisation militante. Donc merci encore d'avoir accepté l'invitation et merci de participer à ton échelle, à la représentation positive des femmes dont on a tant besoin. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale, puis nous reviendrons dans quelques instants avec l'autobiographie d'une enfant star qui a probablement marqué votre enfance. Puis nous discuterons ensemble d'un sujet qui me semble très important, comment aller en manif en toute sécurité. Et du coup, on va revenir par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, donc j'adore faire des liens. mais avant tout ça, je vous propose d'écouter Noumi de Edaya, une artiste que j'ai croisée il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. C'est une musique qui parle de la bisexualité des femmes et il était temps. Je vous laisse écouter et on se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute.
Stop it. Les garçons c'est plus facile, les filles c'est plus réel. Quand t'es sans le cœur fragile, les filles me donnent des ailes. Les garçons pas plus sensibles, ils sont juste un peu frêles. Et quand ils partent en exil, les filles se brûlent les ailes.
Mais où, tranquille, laissez-moi, je ferai pas de joie.
Vous êtes toujours avec nous sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr et je suis toujours avec mes copines Emeline, Léonie et notre invitée du jour Sarah, militante engagée et trop stylée qu'on a pu découvrir il y a un instant. Ça va Sarah, tu passes un bon moment avec nous ?
Vraiment, je me sens super à l'aise et le stress est complètement parti au bout de quelques secondes, donc c'est trop bien.
C'est trop trop cool, la vibe de l'émission fonctionne bien, on étend notre groupe de copines, notre domination sur Angers. On parle d'Angers, ouais, on va pas aller, même s'il y a des gens qui nous écoutent à Reims, on va pas pousser le bouchon un peu trop loin. Ok, on va découvrir à présent la dernière trouvaille tirée tout droit de la bibliothèque de Léonie et c'est parti pour le nouveau point littéraire. Bonjour Léonie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier point littéraire depuis le plateau de Elle était une fois. Oh là là, je suis trop heureuse d'enfin pouvoir partager ça avec vous. Mais avant de parler livres, je vais vous emmener dans un petit moment de nostalgie. Est-ce que vous vous souvenez des séries que vous regardiez quand vous étiez plus jeune ? Perso, j'avais pas Disney Channel, donc j'ai jamais connu Hannah Montana, Liv et Maddie, Les Sorciers de Waverly Place, tout ça, tout ça. Par contre, j'ai saigné les séries Nickelodeon qu'on pouvait trouver sur Gulli, notamment Victorious et iCarly,
évidemment.
Aujourd'hui, c'est le deuxième qui nous intéresse. iCarly, c'est l'histoire de trois jeunes, Carly, Sam et Freddy, qui montent une émission web qui cartonne et dont on suit le quotidien. Et l'actrice du personnage de Sam, Janet McCurdy, M-2-C-U-R-D-Y, a sorti un livre en 2024 qui a profondément marqué le monde médiatique. Ce livre, vous l'avez peut-être déjà vu passer et le titre vous aura marqué. En anglais, I'm glad my mom died. En français, génial, ma mère est morte. Ce que ça raconte, c'est son quotidien en tant qu'enfant acteur dont la vie a été entièrement contrôlée pendant des années par la personne la plus proche d'elle, sa mère. Entre régime obligatoire, peser 5 fois par jour, partage des revenus et des secrets via la lecture du journal intime, on n'est clairement pas sur une enfance de rêve. Quand elle décroche l'un des rôles principaux de iCarly, tout s'intensifie. Et il devient difficile de ne pas se comparer avec ses co-stars, voire même avec les actrices d'autres séries concurrentes. Dans cette autobiographie, publiée chez Simon & Schuster aux États-Unis et chez J.C. Lattès en France, Janet McCurdy revient sur sa vie mouvementée et amène de l'humour dans des sujets tragiques pour questionner une industrie qui ne se soucie aucunement de la santé de ceux qui y travaillent. Mais plus que ça, on assiste au processus de reconstruction d'une femme qu'on a contrôlée et qui en a assez. Elle reprend les rênes de sa vie, de son corps et de son image, et on ne peut que soutenir un objectif comme celui-là. Si vous vous sentez prête à embarquer dans l'histoire d'une vie tumultueuse et tragique et que vous avez en même temps une forte envie d'un livre rempli d'humour noir acerbe et hilarant, je vous conseille « Génial, ma mère est morte » de Janet McCurdy. Oh, et d'ailleurs, si vous comprenez l'anglais, je vous recommande d'autant plus le livre audio qui est lu par l'autrice et qui est vraiment pépite. Quant à moi, je pars me plonger dans ma bibliothèque à la recherche de livres féministes incroyables. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau point littéraire. Ciao !
Merci beaucoup Léonie pour cette nouvelle découverte. Personnellement, j'aimais bien regarder iCarly à l'époque et j'étais très très, mais alors très très loin d'imaginer l'enfer qu'avait vécu Janet McCurdy. Donc grosse pensée pour elle et force à elle, j'espère qu'elle va mieux maintenant. L'heure est venue à présent de discuter de quelque chose que de nombreuses personnes ont sans doute déjà ressenti. Comment aller en manif pour revendiquer ses convictions tout en restant en sécurité ? C'est une question très importante et on en discute tout de suite. Militante depuis peu, je me suis jamais rendue en manifestation justement parce que j'ai peur et que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas me sentir très à l'aise avec l'idée. Cela peut être lié à plusieurs raisons, l'anxiété, un handicap, la sécurité, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent freiner la descente dans les rues et c'est ok, hein, chacun fait à son rythme et selon ses possibilités. Mais on est peut-être plusieurs, je m'inclus dedans, à avoir envie de passer le pas, le cap, mais on ne sait pas trop comment faire. Et donc je voulais qu'on discute ensemble de comment ça se passe en manif, comment ça s'organise, le déroulé, les risques et les précautions à prendre, parce que c'est hyper important de manifester et de revendiquer ses convictions, mais en sécurité, parce que c'est très important. Donc ma première question déjà, c'est est-ce que vous êtes allée en manif autour de la table ? Emeline ?
Alors oui, j'ai fait ma première manif cette année.
Ah !
C'était le 11 septembre.
Et ouais, franchement, ça va, j'ai eu quand même des amis avec moi, du coup, je suis pas seule. Et comme certaines étaient déjà allées en manif, elles m'ont un peu expliqué les bases à savoir.
Ouais, ok. C'est important, je pense, de pas y aller seule. Léonie, est-ce que t'es déjà allée en manif?
Oui, moi, c'est pareil. J'en ai fait, alors, pas énormément, j'en ai fait quelques-unes. J'ai commencé assez récemment et c'est pareil. J'ai été accompagnée, on m'a expliqué un peu les règles à suivre et maintenant, je suis prête à y retourner.
Trop bien, et bien ça fait déjà deux personnes autour de la table et je pense sans surprise que Sarah, tu vas me répondre par l'affirmative. Donc je te pose la question, Sarah, es-tu déjà allée en manifestation?
Oui, pareil, de mon côté, j'en ai fait pas mal sur des tas de sujets et c'est trop cool. À chaque fois, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est un moment de regain, je trouve, de sens dans la lutte, quand des fois on perd un peu espoir justement.
Eh bien, c'est trop cool parce que du coup, moi je ne l'ai pas fait, comme je l'ai dit, et vous allez pouvoir répondre à mes questions. Donc c'est trop bien. De mon côté, je me suis un petit peu renseignée pour préparer cette séquence, puisque je fais quand même mes devoirs, et j'ai appris beaucoup de choses. Je savais qu'avant d'aller en manif, fallait bien se préparer quand même, mais je n'imaginais pas à quel point. Et déjà, j'ai vu qu'il valait mieux apprendre le numéro d'un collectif ou d'une asso anti-répression locale et le nom d'une avocate au cas où il y aurait des arrestations. Globalement, connaître ses droits avant d'aller en manif, c'est assez important et à ne pas négliger. Donc, est-ce que je voudrais vous demander si c'est quelque chose que vous faites avant d'aller en manif ou c'est typiquement le genre de truc que vous oubliez et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Emeline.
Alors, j'avoue que comme j'en ai fait qu'une seule fois, j'ai pas trop, je l'ai pas trop fait. Ok. Effectivement.
Et tout s'est bien passé?
Oui, ça va.
Ok, bah tant mieux, c'est important. Ça va finir au pot, nous n'y dis pas. Sarah.
Moi non, j'ai jamais appris le numéro d'avocat. Après par contre, mon tips, c'est souvent de rester près des groupes que je sais qui sont vachement formés. Genre par exemple le RAF à Angers, ils sont dans pas mal de manies. Du coup c'est le réseau angevin antifasciste.
Ok.
Et en fait ils nous donnent des indications quand ça devient parce que du coup ils se lancent souvent dans des manifs illégales, des deuxièmes tours qui sont pas toujours déclarés, etc.
Ok.
Et donc rester près d'eux, ça permet d'avoir déjà des gens qui savent gérer ce moment. Ils savent exactement quels conseils donner. Donc j'aurais tendance à dire que si on n'a pas appris, au moins se rapprocher d'un groupe dont on sait qu'il est plutôt formé à ça, quoi.
Ok.
Donc voilà.
Bon tips. Et toi, Léonie, est-ce que tu prends tes précautions avant d'aller en manif?
Alors moi, je suis beaucoup comme Sarah. Je reste beaucoup autour de personnes dont je sais qu'ils gèrent.
Ok.
Parce que c'est rassurant. On dépend pas entièrement en fait de nous-mêmes et de moi, la faible connaissance que je pouvais avoir. La chose qui peut être bien aussi par rapport des fois au numéro d'avocat, ça peut être de les écrire sur le bras.
Okay.
Ça évite de s'en rappeler, mais on les a quand même dessus si jamais on en trouve un. Souvent les collectifs avant les manifestations les partagent dans les réseaux sur les réseaux sociaux, en story, tout ça. Il y a des avocats qui sont spécialisés justement pour la manif. S'il y a un souci, voilà, vous contactez tel numéro, on l'écrit sur le bras et ça va mieux.
Ok, ouais, j'avais vu que Angers Lutte Info sur Instagram partageait pas mal de ressources là-dessus, donc n'hésitez pas, auditeuristes, à aller y faire un tour pour avoir des informations, c'est toujours bon à prendre. Ok, et c'est l'une des choses qui me font un peu peur, je pense. J'ai toujours été un peu frileuse par rapport au règlement et à ne pas être très à l'aise dans des situations où il y a de la violence et tout ça. Donc de l'extérieur, les manifestations peuvent faire peur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez déjà ressenti un peu cette peur et du coup vous avez dû passer au-dessus, ou vous avez toujours été du genre fonceuse et c'est ok, quoi? Sarah.
Franchement, ouais, il y a eu des manifs où quand même c'est un peu, enfin la présence policière en fait se fait de plus en plus forte et je dirais que la peur, elle est surtout venue en fait de la rapidité avec laquelle des fois la manif est coupée, justement parce que on se prend des gaz lacrymogènes ou qu'il y a genre des nasses organisées, etc. Et encore celle d'Angers, j'aurais tendance à dire que ça va, mais pour en avoir fait à Nantes, genre un 1er mai à Nantes ou les manifs retraites à Nantes, force à nos sœurs et Adelphe Nantais, parce que voilà, il y a des villes où il y a une présence policière de fou. Donc je dirais que la peur, elle est surtout de ce côté-là, mais après j'essaie aussi de me dire justement il y a des gens autour, on n'est jamais seul, et mais il y a des fois où ouais, on a peur et clairement on essaie de passer au-dessus, mais c'est un sentiment humain, je pense, et voilà, il m'est jamais rien arrivé. Et puis aussi il faut dire, je suis une meuf blanche, donc je suis peut-être moins soumise au contrôle que il y a plein d'éléments qui font que mais voilà. Faut se protéger, quoi.
Ouais, c'est important de se protéger. Léonie, est-ce que t'avais une petite crainte avant d'aller en manif ou pas tellement?
Ouais, un peu. Bah pareil, je rejoins Sarah. Je te rejoins beaucoup, Sarah. Mais c'est mine de rien, c'est beaucoup de craintes qui aussi ont été calmées par le sentiment de sororité que j'ai beaucoup retrouvé en manif, parce que je restais beaucoup avec des collectifs féministes et des collectifs composés exclusivement de personnes non masculines. Et il y a un vrai sentiment qui se crée d'appartenance à un groupe et de sentir qu'on n'est pas seul. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je refais un deuxième point littéraire. voilà, la chroniqueuse ne quitte jamais ce corps. je suis tombée sur un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Mes droits en manifestation » qui est chez les éditions Flammarion Collection Librio. C'est écrit par Nathalie Théillot. Ça coûte 3 euros. Et en fait, c'est un petit livre qui recense plein de droits, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire par rapport à la police, par rapport à plein de choses en manif. Et je pense que ça peut rassurer pas mal de gens pour bien connaître le cadre à suivre.
C'est super intéressant et tu as pré-shot ma prochaine séquence. C'est trop bien. On va faire une transition, un lien. Parce que justement, je voulais qu'on parle des petits tips pour celles qui veulent aller en manif mais qui ont un peu peur ou parce que elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc, est-ce qu'il y a un petit starter pack un peu de la manif? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir manifester et être en sécurité là-bas et se sentir safe et être à fond dans ce qu'on fait tout en étant un minimum en sécurité, un minimum... bien quoi. Est-ce que vous avez des conseils, Sarah?
Alors déjà, ouais, je pense, rapprochez-vous. Justement, on parlait d'Angers Lutte Info. Enfin, il y a souvent par ville des assos ou des collectifs qui disent qu'ils y seront, qui donnent toutes les infos, qui ont, enfin déjà une espèce de fiche de route un peu pour la manif, le parcours, tout ça, qui disent si vous vous sentez mal, vous pouvez rejoindre tel ou tel comité, machin, qui saura vous recevoir. Donc ça, emmener masque et mince, le truc hydroalcoolique, là, fin, ça peut servir. Typiquement, quand il y a du gaz lacrymo ou autre.
Sérum Fi.
Ouais, du sérum Fi, voilà.
Voilà. Parce que le gel hydroalcoolique dans les yeux, je suis pas sûre.
J'ai dit hydroalcoolique, voilà. Bah, c'est pas du tout le.
Prenez
du
sérum Fi.
Pas ça, parce que sinon, vous allez.
Perdre la vue.
Voilà, c'est pas ouf, vraiment. Donc, sérum Fi, pardon. Voilà, ça aussi, ça protège pas mal. Et ouais, formez-vous votre petite bande de gens avec qui être du début jusqu'à la fin. Il y a même des gens qui justement sont seuls et qui se proposent. Enfin, l'organisation elle se crée en même temps. Pareil, même pour aller à certaines manifs, des fois il y a des groupes de covoites ou qui proposent des échanges, tout ça quand c'est un peu plus loin de chez vous ou pas accessible au niveau des endroits. Donc ouais, non, voilà, et restez connectés même sur ces groupes pendant la manif. Souvent ils publient des trucs dès qu'il y a des débordements et tout. Ils donnent des consignes de sécurité, donc faut toujours rester actif et voilà.
Trop intéressant. Et toi, Emeline, est-ce que t'as eu des petits tips, des petits conseils qu'on t'a donné pour ta première manif, ou est-ce qu'il y a eu des trucs aussi que t'as appris sur le terrain? Est-ce que t'as des trucs à nous partager?
Bah, globalement, en vrai, j'ai fait un peu tous les trucs que Sarah vient de nous dire.
Okay.
Surtout par rapport au sérum Fi et le masque, c'est ce qu'on m'a dit en premier. Et je sais que j'ai aussi une amie qui m'a dit tu cours pas s'il y a des policiers, parce que sinon je pense que tu parais suspect, ou j'imagine un truc de ton genre. Je sais pas trop, mais je sais pas courir, du coup j'ai pas couru.
Ok. C'est bien, tu suis bien les consignes, c'est important. Ok, est-ce que toi, Léonie, t'as des petits tips à rajouter, des petits trucs?
Bah globalement c'était vraiment ça. En fait, c'est vraiment essayer si au possible de bien s'entourer. Surtout pour les premières manifs, c'est hyper rassurant d'être avec des gens qui savent, qui en ont fait plusieurs. Et si vous avez l'opportunité d'être bien entouré et de pas être seul, je pense que c'est un des conseils que je donnerais. Ça rassure.
Ouais, j'ai vu qu'il fallait rester groupé et ne pas être seul globalement, et toujours être entouré de personnes d'un groupe, que ce soit des gens qu'on connaisse ou pas, mais être toujours entouré. C'est un truc que vous validez aussi?
Ouais,
ok.
Pareil, dans les manifs, je sais que des fois il y a des médics. C'est des personnes qui sont vraiment formées, typiquement, qui ont genre ce qu'il faut au niveau médical, etc., pour aider les gens. Ou même si quelqu'un, par exemple, fait une crise d'angoisse ou se sent vraiment pas bien, surstimulé ou autre, c'est des personnes aussi vers qui on peut se tourner. Souvent elles sont habillées en blanc, elles ont genre une petite trousse à pharmacie. Les reconnaît vite et elles font un taf incroyable, donc voilà, valorisons-les aussi.
C'est pas grave, de ouf, parce que c'est super important savoir vers qui se tourner en cas de besoin, surtout dans ces moments-là qui peuvent être très angoissants, très inquiétants. Donc c'est important, et oui, effectivement, les mettre en avant, c'est important aussi. J'avais vu aussi qu'il fallait éviter de prendre sur soi de quoi être identifié. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez ou pas du tout, Léonie?
Alors là-dessus, j'avoue que j'avais pas trop fait attention.
Okay.
Je laisserai la pro nous expliquer.
Et bah Sarah, on se tourne vers toi alors.
Bah, je crois qu'il faut pas avoir son passeport, ça c'est sûr. Alors de là à vous expliquer pourquoi, j'avoue, je sais pas, mais j'ai un encart sur mon Insta qui s'appelle Manif Safe, et dessus il stipule vraiment pas de passeport. Mais après, je crois que si on n'a pas de papier d'identité, c'est pas non plus
terrible,
recommandable. Faut quand même avoir, je pense, une pièce d'identité ou autre.
Okay.
Parce qu'après, sinon, à mon avis, au niveau, enfin, si on finit en garde à vue ou autre, je pense que ça peut. tout, je sais pas, au niveau des procédures, à mon avis, il doit y avoir des recours et la police peut, à mon avis, à un moment, genre, utiliser ça contre toi, quoi. Donc,
ouais.
Pièce d'identité et pas le passeport.
Ok, bon, eh bien, et dans ce cas-là, on lira le livre que Léonie nous a conseillé, comme ça on sera au fait de tous les droits et de tout ce qu'on doit faire en manif, c'est super important. Il nous reste combien de temps? Je ne sais pas, je vais vérifier très rapidement, savoir si on a encore un petit peu de temps. Oh, on n'a plus de temps, non, j'avais encore plein de questions à vous poser. Eh bien, ce sera dans une partie 2, peut-être, ou jamais, on verra. On rediscutera sans doute des manifs, parce que je trouve que c'est très important. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir discuté et répondu à toutes mes questions. J'espère que, auditeurice, on a pu vous aider aussi, répondre à vos questions, enlever vos inquiétudes. Oh, j'arrive plus à parler. Et si ça peut vous rassurer pour vous rendre en manifestation, c'est trop bien. Et si jamais vous ne vous sentez pas en capacité de le faire, vous n'avez pas envie, vous avez peur, vous n'êtes pas capable parce que pour X ou Y raison, que ce soit physique, mentale ou quoi que ce soit, c'est ok. Il y a plein d'autres façons de s'engager, de militer. Il n'y a pas de pression. On fait selon nos capacités. Donc voilà, c'était important à mon sens de le rappeler. Merci beaucoup à vous trois. Merci à l'équipe d'aujourd'hui. Merci Anna, merci Emeline, merci Léonie et merci Maïalène. Et bien sûr, merci à vous aussi, auditeurices, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour bien clôturer l'année avant de se retrouver en 2026 pour une nouvelle année pleine de lutte et d'engagement. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM. Et je suis toujours aussi contente de pouvoir discuter avec vous pendant une heure. C'était trop trop chouette. On vous a parlé durant cette heure de la polémique autour de Brigitte Macron et du hashtag Salcon. Anna nous a parlé de Rosalia et de sa direction artistique. Emeline nous a présenté Harriet Tubman. Puis Léonie nous a présenté Génial, ma mère est morte, pardon. Oh, j'allais dévier. Pas Génial, ma mère est morte de Jeanette McCurdy. Et nous avons débattu sur la sécurité en manifestation. Nous avons eu le plaisir de discuter avec Sarah, militante engagée pour le féminisme et les luttes intersectionnelles. Merci encore Sarah d'avoir accepté l'invitation. Ça va, t'as passé un bon moment avec nous?
Franchement, incroyable. Et je reviens quand vous voulez. Vraiment, mais ce quand sera tu veux. Un bonheur, un plaisir.
Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et j'ai hâte de suivre la suite de tes actus sur Instagram. Je suivrai ça avec très attentivement. On vous souhaite une très belle journée sur Radio G, retrouvez Entre les pages ce soir à 17h. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles voix féminines, rendez-vous demain à 20h pour Elle chante la francophonie. Quant à nous, on revient dans 2 semaines à 13h. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram euf-radio G. Et pour bien finir cette émission, comme d'habitude, on termine avec une dernière musique présentée cette fois par Emeline.
Pour cette fin d'émission, j'ai choisi une musique de Fatou Djakité que j'ai connue sur les réseaux sociaux récemment. C'est sa dernière musique qui s'appelle Badjatina et elle parle des mariages forcés et elle les dénonce. C'est une artiste guinéenne que je trouve absolument incroyable, qui a un style incroyable, qui a une voix incroyable. Bref, je vous laisse écouter ça et à dans 2 semaines.
Bisous!
Suma karaba, mana kase takiri, mana kase takiri. Suma burbuleta, suma karaba, mana kase takiri, mana k. Ojo suma jubude, di no ti ta ozerva, eta ozerva, eta. Capariro Baquila, a mim cá me disseram que enxergue que nero da galera. Irmã suma perimango, bajou com o vento da bala. Mana caceta quirina, e caceta quiri. Mana caceta quirina, e caceta quiri. Mana caceta quiri, e misti baga dina. E misti baga dina.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, 1.7 tout.